VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 1er novembre 2018. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, des agences caritatives s'inquiètent du sort des Congolais expulsés récemment d'Angola.
Cameroun, Yaoundé parle de terroristes et Washington de tirs croisés au sujet du missionnaire américain tué cette semaine en zone anglophone.
Guinée, Amnesty International s'alarme du nombre de manifestants tués depuis le début de l'année.
Au Nigeria, obsèques de protestataires chiites tués cette semaine par les forces de sécurité.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump est prêt à déployer jusqu'à 15 000 soldats à la frontière sud pour barrer la route à une caravane de migrants d'Amérique centrale.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Des humanitaires tirent la sonnette d'alarme face à la situation des Congolais expulsés d'Angola en octobre. Ces personnes installées dans le centre de la République démocratique du Congo ont besoin d'aide d'urgence. Le point avec Abdourahmane Dia.
Quelques 200 000 Congolais ont été expulsés vers la RDC en octobre par l'Angola, qui a évoqué une opération contre l'immigration clandestine dans la province du Lunda Nord. D'après Charles Wontewe, directeur d'Oxfam en RDC, ces personnes déjà traumatisées et démunies ont désespérément besoin de toute urgence de nourriture et d'eau potable. Certains expulsés sont accueillis par des personnes qui luttent elles-mêmes contre la pauvreté, la faim et la maladie. Selon M. Wonteke, des familles démunies hébergent parfois jusqu'à 30 personnes rentrées d'Angola. Le comité international de la Croix-Rouge a indiqué que 50 000 personnes se trouvent bloquées et sans ressources près de la ville frontalière de Komako. D'après le CICR, depuis leur expulsion, tout leur manque, hébergement, soins médicaux et nourriture. La région du Kasaï est l'une des plus pauvres de la RDC. Elle a basculé dans la violence entre 2016 et 2017 et ce conflit, selon les Nations Unies, a fait près de 3 000 morts et plus d'un million de déplacés.
Les autorités camerounaises ont accusé mercredi des terroristes d'avoir causé la mort d'un missionnaire américain en zone anglophone au Cameroun. Washington a accusé de son côté que son ressortissant avait été victime de tirs croisés. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Charles Wesco, le missionnaire tué par balle mardi, a été la cible de terroristes lors d'une tentative d'attaque contre une brigade de gendarmerie et une zone universitaire, a affirmé le ministre camerounais de la Défense Joseph Betty Assomo. Sur les réseaux sociaux, plusieurs séparatistes des régions anglophones ont quant à eux imputé la responsabilité de la mort de l'Américain à l'armée camerounaise. Le département d'État américain s'est gardé d'accuser un bord ou l'autre, en insistant sur le fait que Yaoundé avait promis une enquête approfondie sur la mort de Wesco. Nous avons été en contact avec de hauts responsables de la sécurité gouvernementale du Cameroun et nous estimons que la victime s'est retrouvée prise dans des tirs croisés, a déclaré Robert Paladino, un porte-parole de la diplomatie américaine. Le drame s'est produit à Bambui, à 14 km de Bamenda, capitale de la région anglophone du Nord-Ouest. Le département d'État américain a appelé les rebelles séparatistes et les forces gouvernementales camerounaises à entamer immédiatement un dialogue ouvert et sans condition.
Amnesty International s'est inquiété hier du nombre de tués en Guinée, 18 depuis le début de l'année, dont 3 au cours des 2 dernières semaines, lors de manifestations de l'opposition. L'ONG de défense des droits de l'homme a demandé aux autorités de Conakry de veiller à ce que personne d'autre ne perde la vie. Amnesty International a également réclamé, je cite, « une enquête approfondie, impartiale et efficace sur les allégations indiquant que le chef de l'opposition, Sélou Dalein Diallo, a été pris pour cible parce qu'il a critiqué ouvertement le gouvernement ». Fin de citation.
Guinée toujours, les victimes survivantes d'un massacre de 6 villageois en 2012 ont porté plainte dans leur pays contre une société minière qu'elles accusent de complicité, puis devant la Cour de justice de la CEDEAO contre l'État guinéen, selon l'AFP. Selon l'ONG, les mêmes droits pour tous, les 6 ont été tués le 4 août 2012 à Zogota, dans le sud-est, par les forces de sécurité qui avaient tiré sur des villageois protestant depuis plusieurs jours contre la politique de recrutement de la société minière Vale BSGR.
Les présidents du Sénégal, Macky Sall, et de Sierra Leone, Julius Maada Bio, ont appelé à la révélation des propriétaires réels dans les industries extractives en Afrique pour juguler la corruption et l'évasion fiscale. Les deux leaders parlaient hier à Dakar, à la conférence internationale sur l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Le Sénégal doit intégrer le cercle des pays producteurs d'hydrocarbures en 2021 ou 2022.
Au Nigeria, les partisans d'un groupe chiite radical enterrent leurs morts à la suite de trois manifestations que l'armée a brutalement réprimées. Le mouvement islamique du Nigeria affirme que 49 personnes sont mortes en 4 jours, alors que l'armée maintient un bilan de 6 morts. Eric Manirakiza.
Des familles endeuillées se sont rassemblées hier pour préparer les funérailles de leurs proches. « Nous nous sentons mal, nous nous sentons lésés, nous sommes opprimés », a déclaré Abdoulaye Mohamed Moussa, membre de son mouvement islamiste. L'armée a de son côté assuré que les manifestants avaient attaqué ces hommes qui ont répondu par des tirs à balles réelles. Ils manifestaient pour réclamer la libération de leur leader Ibrahim Zakzaki, emprisonné depuis près de 3 ans. Depuis son arrestation, Zakzaki n'a été vu en public que 2 fois. Fin 2016, un tribunal fédéral avait jugé sa détention illégale et ordonné sa libération, mais cette décision n'a jamais été exécutée. Cette situation fait craindre une escalade de la violence, la répression violente de l'armée, puis l'assassinat du fondateur de Boko Haram, Mohamed Youssouf, avait largement incité ses partisans à prendre les armes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump a affirmé mercredi qu'il pourrait déployer jusqu'à 15 000 soldats à la frontière avec le Mexique pour empêcher l'entrée sur le territoire d'une caravane de migrants centra-américains fuyant la violence dans leur pays. En ce qui concerne la caravane, notre armée est déployée, nous en avons environ 5 000, nous irons jusqu'à 10 000 ou 15 000 soldats, a déclaré M. Trump. Pour sa part, le secrétaire à la Défense, Jim Mattis, a démenti hier que ce déploiement de troupes soit un coup politique pour aider les républicains à la veille des élections de mi-mandat prévues mardi prochain. Les précisions de Claire Morin-Gibourg.
Le soutien que nous apportons à la secrétaire à la sécurité intérieure, Kirsten Nielsen, est un soutien basé sur une demande des gardes-frontières, a indiqué hier Jim Mattis depuis le Pentagone. Nous ne faisons pas de coup politique dans ce ministère, a-t-il ajouté. Cette opération, nommée Patriote fidèle, représente un déploiement massif, le plus important depuis que M. Mattis a pris ses fonctions il y a près de 2 ans. Le président américain Donald Trump affirme que l'envoi de ses soldats à la frontière est nécessaire pour bloquer 2 caravanes de migrants. Environ 6 000 personnes sont venues d'Amérique centrale et se trouvent dans le sud du Mexique, dans une longue marche vers les États-Unis.
En Syrie, les forces démocratiques syriennes, les FDS, ont annoncé hier la suspension de leur offensive contre les djihadistes dans l'Est, et ce après les récents bombardements turcs des positions des unités de protection du peuple près de la frontière dans le nord. Cette milice kurde est l'épine dorsale des FDS, soutenue par la coalition dirigée par Washington contre le groupe État islamique. Les États-Unis ont dit leur préoccupation après les frappes de l'armée turque.
Le ministre roumanais chargé des affaires étrangères, Youssef Ben Alaoui Ben Abdallah, a rencontré mercredi à Ramallah, en Cisjordanie occupée, le président palestinien Mahmoud Abbas. Selon Wafa, l'agence de presse palestinienne, l'émissaire du sultan Qaboos d'Oman a remis à M. Abbas une lettre concernant la récente visite surprise du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans ce pays arabe. Aucun autre détail n'a été fourni sur leur discussion à Ramallah, ni sur le contenu de la lettre. Israël n'a de relations diplomatiques qu'avec l'Égypte et la Jordanie dans le monde arabe, mais l'expansion de l'influence iranienne crée, selon M. Netanyahou, une convergence d'intérêts avec les pays arabes, ce qui inquiète les Palestiniens. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le gouvernement du Cameroun vient de mobiliser 121 milliards de francs CFA dans le cadre d'une levée de fonds d'une valeur de 150 milliards de francs CFA qu'il a initiée auprès de la Bourse des valeurs de Douala. Les fonds récoltés permettront de financer des chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019 qui compte les complexes sportifs de Japoma et d'Olembe. Cet emprunt financera aussi la construction du barrage hydroélectrique de Bini, la centrale hydroélectrique hydroélectrique de Lompongar et la construction des lignes électriques Yaoundé à Bombang. Le Sénégal et l'Allemagne ont signé un protocole d'accord de réforme pour la mise en place d'un cadre de coopération économique efficace en marge du G20 Compact with Africa. Cet accord vise à permettre au gouvernement allemand d'accroître son volume d'investissement en installant des entreprises au Sénégal. La Banque mondiale octroie à l'Éthiopie un financement de 1,2 milliard de dollars destiné à soutenir les réformes économiques dans plusieurs secteurs de ce pays. Ces fonds, constitués d'un don de 600 millions de dollars et d'un prêt de 600 millions de dollars, serviront à appuyer les réformes dans le secteur financier et à promouvoir le partenariat public-privé dans des secteurs clés comme les télécommunications, l'électricité et la logistique commerciale.
À présent, les sports avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Cameroun retrouve ses quatre représentants en Coupe africaine.
En raison de la reprogrammation de la Coupe d'Afrique des Nations en juin et juillet à partir de 2019, l'édition 2018-2019 de la Ligue des Champions et de la Coupe CAF débutera dès la fin du mois de novembre. La CAF a réparti les places disponibles entre les différentes associations membres en se basant sur son classement établi sur les performances des cinq dernières années. 12 pays auront deux représentants en Ligue des Champions et en Coupe CAF. Il s'agit de la Tunisie, l'Égypte, la RDC, le Maroc, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Soudan, la Zambie, la Libye, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Mozambique. Le Cameroun retrouve donc ses quatre représentants. En revanche, le Congo, le Mali et le Nigeria chutent au classement et devront se contenter d'un représentant par compétition.
Entre Al-Masri et Hossam Hassan, c'est bel et bien la rupture.
Oui, on en parlait hier. Après avoir refusé la démission de celui qui était son entraîneur depuis juillet 2015, Al-Masri s'est finalement résolu à laisser partir Hossam Hassan, qui a rejoint un concurrent, le Pyramide FC. Accompagné de son frère jumeau, Ibrahim Hassan, l'ancien international égyptien succède à l'Argentin Ricardo La Volpe, récemment limogé sur le banc du nouveau riche du football égyptien. Mimi Abdel Razik a été nommé entraîneur d'Al-Masri pour le remplacer.
Cyclisme, le Tour du Faso en est à sa 7e étape ce jeudi.
Les coureurs se lanceront sous peu sur l'axe Orodara-Bobo-Dioulasso, 122 km. Hier, la 6e étape, un contre-la-montre par équipe, a souri à la Belgique. Au classement général individuel, Mathias Sorgho reste en jaune, à 12 secondes de Jor Anne Graaf. Dieter Bouvry est désormais 3e à 1 minute 32. GCT domine le classement général par équipe devant le Burkina Faso.
Ici aux États-Unis, Rooney et Ibrahimovic en lice pour le trophée de meilleur joueur en MLS.
L'ancien international anglais de DC United, Wayne Rooney, et le buteur suédois de Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic, font partie des 5 joueurs nommés pour le trophée de meilleur joueur du championnat nord-américain de football. Rooney a propulsé son équipe de la dernière place à son arrivée en juin, à la 14e place de la conférence S. Ibrahimovic, lui, est 2e meilleur buteur en MLS avec 22 réalisations. Nous restons ici aux États-Unis pour parler NBA. Avec vous, Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Brooklyn bat de justesse Détroit, 120 à 119. Idem entre Denver et Chicago, respectivement 108 et 107. New York battu par Indiana, 107 à 101. Et Minnesota bat de 3 points Utah, 128 à 125.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Plein feu sur les élections de mi-mandat aux États-Unis. Elles ont lieu mardi prochain, même si le vote anticipé a déjà démarré. Elles concernent les deux chambres du Congrès américain et, comme d'habitude, se tiennent à la mi-mandat de chaque président du pays. Que faut-il savoir de ces élections? Quels en sont les enjeux? Que vont-elles signifier pour le président Donald Trump et pour son agenda, dont sa politique étrangère? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Burkina Faso a commémoré hier le 4e anniversaire de l'insurrection populaire ayant emporté le régime du président Blaise Compaoré. À cette occasion, le président burkinabé a déposé hier matin une gerbe de fleurs au monument aux héros nationaux pour un hommage aux martyrs. Précision à Ouagadougou avec notre correspondant Issa Napon.
Ce sont plusieurs associations de la société civile et des mouvements des droits de l'homme qui ont donné très tôt le ton de cette commémoration à travers une marche meeting de contestation. La coalition a boudé la commémoration officielle et lui a préféré la place de la nation pour ne pas cautionner l'action du gouvernement, explique Elie Tarpaga. Il est le responsable de la coordination des comités de défense et de l'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire de la ville de Ouagadougou.
C'est pas la bonne manière de se rappeler de ceux qui sont tombés pour qu'il y ait la liberté, pour qu'il y ait la démocratie au Burkina Faso. La bonne manière, c'est effectivement répondre aux préoccupations de ces gens-là en matière de justice, en matière de tout ce que le peuple burkinabé a revendiqué pendant l'insurrection populaire. Les commémorations folkloriques là, nous ne sommes pas dedans.
Proche également de ne pas s'associer au cérémonial officiel, les familles des martyrs qui ont finalement pris part à l'issue d'ultime tractation, précise Paula Boupeka Victor, président de l'Union des familles des martyrs.
Au début, les choses n'avaient pas évolué, donc c'est pour cela que nous avons adressé une lettre au gouvernement pour dire qu'on n'allait pas participer. Mais nous, si on prend le 29 octobre, nous avons eu des réunions, donc on s'est mis d'accord. Le président Rochmark Isankaboré lui-même, il prend tout en charge et il a promis de régler tous les problèmes avant la fin de l'année.
C'est ce même espoir qui a prévalu à la présence des représentants des blessés, soutiendra Manu Ouedraogo, président de l'association des blessés de l'insurrection populaire et du putsch manqué.
Nous sommes en discussion avec le gouvernement pour les différents soins des blessés et que nous puissions avoir des mesures d'accompagnement pour ceux qui ont perdu leur emploi depuis les sélections et qui n'en ont plus jamais eu. Présentement, il y a 532 blessés du côté insurrectionnel et du coup d'État manqué.
Après avoir déposé une gerbe de fleurs en mémoire aux martyrs, le président du Faso, qui promet respecter les engagements pris, a désapprouvé le désintérêt manifesté par une partie des Burkinabés. Il faut savoir dépasser les divergences lorsque les questions touchent à l'intérêt national, indique Rokaboré.
Les dates historiques de notre pays, c'est très important pour la cohésion, c'est très important quels que soient les points de vue divergents que nous pouvons avoir. Aujourd'hui, c'est un jour de reconnaissance vis-à-vis de ces héros. C'est un jour également d'introspection. Il est évident quand on gère un pays que tout ne peut pas se réaliser en une fois, comme sur la baguette magique. Les priorités des Burkinabés sont nombreuses et dans tous les domaines. Et vous savez très bien que si nous voulons réussir véritablement à faire en sorte que nous avancions, c'est si nous travaillons ensemble en ayant conscience que chacun, dans son poste de responsabilité, a quelque chose à apporter au pays.
Issa Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Sénégal, débat sur l'éducation sexuelle suite à la publication d'un rapport d'une ONG sur des abus sexuels dont sont victimes les filles à l'école. Human Rights Watch a mené des entretiens individuels et collectifs avec plus de 160 filles et jeunes femmes, ainsi qu'avec une soixantaine d'autres personnes dans quatre régions du Sénégal. Si le ministère de l'Éducation nationale et les enseignants sont montés au créneau pour s'offusquer du contenu de ce rapport, les jeunes, eux, préfèrent faire face et aborder la question de l'éducation sexuelle sans tabou. Reportage de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Des jeunes commencent à se mobiliser, à s'engager pour mieux vivre leur adolescence en animant l'information sur la santé de la reproduction. Un combat porté par Ndaïssé Nobougueï qui est le point focal du Ratanga Club au Sénégal.
L'on a vu que l'éducation sexuelle est tabou dans notre communauté. Les jeunes, ils n'en parlent pas. Les parents non plus. Donc nous avons voulu vraiment savoir pourquoi il y a cette barrière. Pourquoi il y a ce voile autour de ces thématiques qui nous concernent personnellement en tant qu'humains, mais que nous devons connaître connaître en tant que jeune. Parce qu'il ne sert à rien de se précipiter et d'aller vers la tentation, d'aller vers ce que l'on ne connaît pas. Donc, puisque nous avons l'occasion et puisque nous avons l'obligation de passer l'information et de nous approprier de cette information, nous avons dit pourquoi ne pas en parler.
Si ces jeunes s'investissent autant, c'est parce que l'éducation sexuelle est l'objet de divergences culturelles dans les familles, avec des jeunes beaucoup plus tournés vers la modernité et des parents plutôt conservateurs. Cette mère de famille avoue qu'il est difficile d'aborder certains sujets avec ses enfants, même si certaines initiatives permettent de contourner ces problèmes.
Parler de sexe est un peu tabou chez nous, donc surtout chez les mères. La mère, en général, ne peut pas parler avec sa fille de sexe. Mais ça tend à disparaître avec des espaces dialogue qu'on organise avec les mamans des jeunes pour qu'il n'y ait pas de conflit de génération. Bien que nos cultures nous parlent de l'abstinence, mais bon, si on ne peut pas, il faut au moins informer la personne qu'elle puisse se protéger. Seulement, il faut que les jeunes apprennent à parler, mais à respecter aussi cette génération qui est un peu sauvegardiste.
Pour le docteur Massamba Gueye, il faut respecter les valeurs de nos sociétés traditionnelles et éviter le mimétisme. Le manager de la Maison de l'Oralité et du Patrimoine au Sénégal veut des jeunes sexuellement bien éduqués, mais dans le respect des normes sociales.
Je pense que la question de la sexualité n'a jamais été tabou dans les familles africaines. Je l'entends souvent, mais c'est archi faux. Elle n'a jamais été tabou, mais il y a des cercles où il faut le dire. Parce que le tabou, c'est ce qu'on ne dit jamais. Ici, il y a des jeunes entre eux avec une liberté de langue et de ton autour de la sexualité de tout le temps. Nous qui sommes nés dans les villages africains, nous savons cela. Seulement, le discours public est un discours organisé. Ce n'est pas parce que dans d'autres pays, en public, les gens en parlent qu'il faut en parler ici en public. Nous avons des valeurs culturelles. Organisons-nous par rapport à nos valeurs culturelles pour être conformes à notre inconscient.
Au Sénégal, l'éducation sexuelle n'est pas encore introduite dans le système scolaire. Certains syndicats d'enseignants estiment que les réalités culturelles sont totalement contre cet enseignement. Le ministère de l'Éducation, quant à lui, affirme que c'est au gouvernement de déterminer souverainement le contenu des enseignements dispensés à ses apprenants. Un contenu qui n'intègre pas pour le moment l'éducation sexuelle, ce qui pousse les jeunes à s'organiser eux-mêmes pour sensibiliser leurs pères. À Dakar, Seydina Abba Gueye pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Soudan du Sud, le chef rebelle Riek Machar est arrivé hier matin à Djouba pour participer à une cérémonie célébrant la signature d'un nouvel accord de paix signé le 12 septembre à Addis Abeba et destiné à mettre fin à presque 5 années de guerre civile. Le président soudanais Omar el-Béchir, la nouvelle présidente éthiopienne et d'autres délégations de haut rang ont pris part à cette cérémonie. Selon cet accord, M. Machar doit retrouver son ancien poste de vice-président. Et pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Paris le directeur de Soudan Tribune, Mohamed Nagui.
Qu'il s'agissait avant toute chose de faire une célébration nationale. Et Machar, à ce titre, il a été convié, lui et le reste des dirigeants de l'opposition, qui sont pour la majorité actuellement, ils se trouvent à Khartoum. S'agissant de Riek Machar, il faut bien que se le dise, lui, il est, d'après les accords de paix, tout ce qui a été convenu, il doit rester à Khartoum pour environ quelques mois, le temps que le comité de pré-transition finisse ses travaux pour préparer la période de transition d'une trentaine de mois pour l'application des accords de paix.
Donc, M. Machar ne va pas rester à Djouba après la cérémonie.
Pour l'instant, il participe uniquement, doivent rentrer à Khartoum. C'est donc d'ici quelques mois que Riek Machar va officiellement rentrer dans le Sud-Soudan en tant que premier vice-président.
Riek Machar n'avait plus remis les pieds à Djouba depuis juillet 2016. Est-ce que sa présence marque un bon signe de paix?
Sa présence en soi-même était très significative et très attendue par beaucoup. Parce que, comme vous le savez, la communauté internationale, les pays donateurs de la Troïka et tout le monde a exigé de président Salva Kiir et de Riek Machar d'apparaître ensemble, de faire des signes d'apaisement, d'appel à l'unité nationale, à la tolérance, au pardon. Et donc, à ce titre-là, et lui, il devait y être là aujourd'hui.
Faire travailler ensemble M. Kiir et Machar ne sera pas une mince affaire.
Ils n'ont pas le choix. Ils savent que c'est vrai, les malheurs de ce pays, pour beaucoup, sont responsables. D'ailleurs, tous les deux, ils ont reconnu leur tort et ils ont demandé pardon. Ils ont juré, je dirais, de faire de tout leur possible pour que ça réussisse cette fois et permettre aux gens de vivre en paix, parce qu'il faut savoir que les Sud-Soudanais n'ont pas connu depuis très longtemps, ils n'ont pas connu la vraie paix, ils n'ont pas su vivre comme tout le monde.
La coopération entre Kiir et Machar a toujours abouti au chaos et au conflit. Est-ce que tout ce que vous venez de citer là, c'est suffisant pour éviter un autre conflit?
Il faut en tout cas maintenir la pression régionale et internationale sur les parties de l'accord de paix qu'ils viennent de signer. L'application de cet accord a besoin de beaucoup d'argent. Et la communauté internationale, il a clairement dit qu'il ne va pas soutenir un accord si les parties sud-soudanaises ne se montrent pas à la hauteur des engagements pris.
Mohamed Nagui, directeur de Soudan Tribune.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ici aux États-Unis, à moins d'une semaine des élections de mi-mandat du 6 novembre, les Américains sont alarmés par le massacre survenu dans une synagogue de Pennsylvanie, mais aussi par l'interception de plusieurs colis piégés envoyés à des leaders démocrates et autres critiques du président républicain Donald Trump. Le scrutin de mardi prochain, il faut le dire, pourrait avoir un grand impact sur les deux dernières années du mandat de M. Trump. Précision de Lionel Gahima.
À Pittsburgh, en Pennsylvanie, c'est le recueillement en mémoire de victimes du massacre de la synagogue Tree of Life, un massacre dénoncé par le président Donald Trump.
We condemn the historic evil.
Nous condamnons le mal historique de l'antisémitisme et toute autre forme de mal, et malheureusement, le mal vient sous plusieurs formes. Et nous devons nous unir comme un seul peuple américain.
Pour l'analyste John Hoddad de la Brookings Institution, un cercle de réflexion de Washington, la fusillade de Pittsburgh et l'inculpation de l'homme accusé d'avoir envoyé des colis piégés ont accru la tension dans la dernière ligne droite de la campagne électorale.
Le pays souffre du fait de cette série de circonstances qui, malheureusement, surviennent trop souvent aux États-Unis. Des actes de violence et d'agression d'Américains contre leurs propres compatriotes.
Parmi les voix appelant au calme, c'est de l'ancien vice-président Joe Biden.
Je sais que parfois la colère, la haine, la méchanceté menacent de nous submerger. Et il revient à nos leaders de donner le ton, de baisser le ton et de redonner une certaine dignité à notre dialogue national.
Pour certains démocrates, les attaques partisanes du président Trump ont contribué à créer une atmosphère politique tendue. Un avis que rejette le porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders.
Le premier réflexe des médias a été d'accuser le président Trump et de lui imputer la responsabilité de ses actes ridicules. C'est scandaleux que cela soit leur première réaction.
Pour sa part, le président Trump se dit déterminé à mener jusqu'au jour du scrutin une vigoureuse campagne pour les questions importantes pour ses partisans, comme l'immigration.
Le Parti démocrate encourage ouvertement des millions d'étrangers en situation illégale à violer nos lois et nos frontières et à mener notre pays à la faillite, ce qui est en train d'avoir lieu.
Les démocrates ont, de leur côté, concentré leur message électoral sur l'assurance maladie, mais le scrutin sera avant tout un référendum sur la présidence de Trump, souligne Jim Kessler, vice-président du cercle de réflexion Third Way, basé ici à Washington. On s'attend à ce que les démocrates reprennent le contrôle de la Chambre des représentants, une perspective périlleuse pour le président Trump, dans la mesure où ces démocrates pourraient alors bloquer toutes ces initiatives, ouvrir de nombreuses enquêtes et du coup compliquer ses chances de réélection en 2020.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi, plein feu sur les élections de mi-mandat aux États-Unis. Elles ont lieu mardi prochain, même si le vote anticipé a déjà démarré. Elles concernent les deux chambres du Congrès américain et, comme d'habitude, se tiennent à la mi-mandat de chaque président du pays. Que faut-il savoir de ces élections? Quels en sont les enjeux? Que vont-elles signifier pour le président Donald Trump et pour son agenda, dont sa politique étrangère? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h01.
aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.